Ça fait deux jours que le Seigneur me parle et qu'il m'a donné comme une vision d'une certaine chose qu'il va souligner, que je vais vous dire tout à l'heure. Mais il m'a comme donné cette pensée prophétique que dans ces temps de la fin, l'ennemi mettrait bouchée double pour accuser les enfants de Dieu, pour nous accuser. Alors, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et le Seigneur veut aussi nous montrer comment faire quand nous sommes injustement accusés. Et il m'a donné cette vision que je vais vous dire en rapport avec le psaume 18, où les versets 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et cette vision que le Seigneur m'a donnée est celle-ci, c'est que j'ai vu un rocher. Et cette image depuis hier me poursuit comme un rocher, un grand rocher, c'est Jésus bien sûr, dans lequel il y a une grotte, dans laquelle des personnes se sont réfugiées. Et tout autour de ce rocher, il y a la guerre, il y a le combat. Et il y a, dans cette vision, il y a plein de flèches qui volent de partout, des flèches qui volent de partout, autour du rocher, et qui viennent se heurter contre le rocher, parce que ces flèches-là voulaient atteindre le peuple de Dieu qui s'est réfugié dans le rocher. Mais elle ne pouvait pas l'atteindre parce que les chrétiens se sont réfugiés à l'intérieur de ce rocher. Et donc le Seigneur me disait, c'est pas le tout de s'appuyer sur Jésus et d'être sur le rocher. Il faut aller à l'intérieur, se réfugier, dans la grotte, à l'intérieur du rocher. Et à certains moments, vous allez voir, c'est ce Dieu, mon rocher, mon bouclier. En même temps, cette pensée de bouclier, avec cette vision, c'est-à-dire que le rocher s'est transformé en bouclier aussi. Est-ce que, et le Seigneur me disait, à quoi servirait un bouclier au combat si le soldat ne s'abrite pas derrière? De même, on peut se tenir sur le rocher sans toutefois aller s'abriter au creux du rocher. Alors, aller se blottir dans le creux du rocher, c'est s'abriter dans le creux de la main du Seigneur. Et les traits enflammés du malin ne sauraient nous atteindre si nous faisons cela. Quand nous ne savons plus comment nous défendre, parce que les traits enflammés deviennent forts, alors il est temps de se réfugier dans, au cœur de la main du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 18, là, « Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » C'est ça, l'abri dont je parle, c'est cette grotte. « Mon Dieu, où je trouve un abri. » Mon bouclier, la force qui me sauve, vous voyez, le rocher, le creux du rocher qui est l'abri, et qui est en même temps un bouclier, contre lequel les flèches du malin viennent se heurter et ne peuvent nous atteindre. Alors, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur est tout cela pour nous, à la fois le rocher, à la fois le bouclier. Et ensuite, au verset 31, il est souligné qu'il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ce psaume 18, il est merveilleux. Quand il y a un combat, quand on est accusé injustement, quand il faut se réfugier quelque part, eh bien, il est merveilleux. Il est mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, au verset 3, et ensuite un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, au verset 31, et au verset 47 à 49, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, c'est fort, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires et tu me sauves de l'homme violent. » Donc, la violence des flèches que le Seigneur m'a dit qu'il y aurait dans ces temps de la fin, voilà ce qu'il faut faire, voyez. Il faut bénir le Seigneur notre Dieu et dire, Seigneur, je me réfugie en toi. C'est toi mon défenseur, c'est toi mon avocat et c'est toi qui me délivres de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires et tu me sauves de la violence de l'homme. Bien sûr, derrière la violence de l'homme, il y a l'ennemi. Contre l'ennemi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a que le Seigneur pour nous défendre. L'homme, on peut encore chercher à se défendre soi-même. Mais l'ennemi, on ne peut pas se défendre contre lui, parce qu'il est plus fort que nous. C'est donc qu'il faut se réfugier en lui. Et ce psaume 18 est merveilleux pour ça. Et cette vision c'était merveilleux, parce que c'est vraiment... ma vision, c'est l'illustration de ce verset. C'est comme si le Seigneur me montrait un peu une image de la réalité des choses. C'est extraordinaire, c'est fort. Parce que dans le creux du rocher, c'est en même temps un bouclier. Les flèches volent autour de nous, elles ne nous atteignent pas. Il faut qu'on arrive à être au-dessus, et pour être au-dessus des accusations, eh bien, il faut se blottir dans le creux de sa main, au creux du rocher. Il faut dire, Seigneur, je me blottis en toi, c'est toi mon défenseur, tu es mon avocat, et j'ai confiance en toi. Le verset, il est 31, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, il faut lui faire confiance et dire, je me réfugie en toi et j'ai confiance, tu vas me défendre. Et ça fait mouvoir le bras de Dieu. Quand on se blottit dans le creux de sa main, il ne laissera pas ses enfants être touchés par l'ennemi. Quand on se blottit en lui, il ne peut pas nous toucher. C'est extraordinaire, c'est une force extraordinaire. Extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis, en même temps, non, c'était avant même que j'ai eu cette vision hier, c'est depuis hier, ces paroles-là aussi, avant que elles me soient données, déjà ça préparait mon cœur pour cela, et nos cœurs aussi. Le Seigneur disait, mes enfants, plus les vents qui soufflent sur vous sont contraires et violents, plus je suis là pour vous fortifier. Je vous fortifierai encore et toujours. Attendez-vous à moi dans le silence de votre cœur. Vous voyez, là, oh, c'est formidable tout ça. C'est formidable, hein, ça. Moi, j'en suis étonnée de toute cette précision. Près de moi, vous serez tranquille, me disait le Seigneur. Tranquille, la douleur de votre âme se calmera. Grande est ma fidélité, dit le Seigneur, que je déploie sur vous. Plus vous vous tiendrez près de moi, moins les vents violents vous atteindront, et plus mon amour
pourra vous combler de paix et vous rassurer. Vous vous tiendrez, plus vous vous tiendrez près de moi, plus je vous ferai entrevoir la gloire qui vous attend auprès de moi. C'est là la source de votre espérance. Près de moi, rien ni personne ne pourra jamais vous ravir la sérénité que vous avez trouvée en moi. Je suis votre gloire et c'est moi qui relève votre tête. C'était fort, très fort. Et puis aussi ceci, un peu une autre précision. Quand ton cœur saigne et souffre, que tu ne sais plus de quel côté te tourner, viens te réfugier en moi. Encore, ça m'a été donné avant ça. Moi, ton Seigneur, je suis un refuge pour l'opprimé, pour celui qui a le cœur déchiré. Toi qui connais la puissance et l'efficacité de mon nom, abandonne-toi à moi. Laisse-moi te porter au travers de ce déchirement que subit ton âme. Si c'est moi qui te porte, tu n'as plus à te prendre en charge toi-même. Je m'occupe de tout ce qui te concerne. Ma victoire devient alors la tienne, ma justice aussi. Mon repos et ma paix s'en tiennent également. Poursuis donc ta route, mon enfant, avec moi, les yeux fixés sur moi. Et ces pierres sur ton chemin qui te blessaient tant ne te feront plus mal. Ça rejoint toujours la même chose, la même pensée. Quand lui on est protégé. Car je suis celui qui guérit les cœurs blessés. Et mon baume ne s'épuise jamais. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour cette victoire éclatante. Merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir nous réfugier en toi. Quand les traits enflammés du malin veulent nous détruire des choses en nous, Seigneur, tu es là, tu es notre bouclier.
Amen.
Tu es notre haute retraite, notre forteresse, dans laquelle nous voulons toujours aller nous réfugier. Nous ne voulons pas nous battre nous-mêmes, nous défendre nous-mêmes. C'est toi notre avocat, c'est toi notre justicier, c'est toi qui fais toutes choses parfaitement. Et si l'ennemi cherche à nous faire du mal, tu es notre défenseur, tu es notre libérateur. Tu as payé le grand prix pour cela et c'est vers toi que nous voulons lever les yeux. Tu es assez puissant, assez grand, Seigneur, pour nous défendre. Car tu es beaucoup plus grand que l'ennemi. Si l'ennemi cherche à nous épouvanter, eh bien, nous savons qu'il est vaincu. Et nous allons le confesser et le dire. L'ennemi est vaincu et nous le savons. Alléluia. Et ces traits enflammés ne nous atteindront pas parce que Jésus nous protège. En lui, nous sommes protégés et nous sommes gardés. Et c'est lui qui est confondu et l'ennemi fera toujours une œuvre qui le trompe.
Amen, amen.
Quoi qu'il fasse, c'est lui le perdant et c'est Jésus le gagnant et nous amen. Sommes avec lui. Nous sommes vainqueurs avec lui. Alléluia, béni soit le nom tout puissant de Jésus. Alléluia, ô Seigneur, quelle gloire, quelle assurance, quelle sécurité. Quelle paix, quelle sérénité. Dans ta présence, il n'y a plus de vent. On ne sent plus le vent. On ne sent plus les flèches. Dans ta présence, c'est le calme parfait. C'est la paix parfaite. Parce que tu es le prince de la paix. Et tu l'as vaincu. Et nous l'avons vaincu avec toi. Nous nous associons à ta victoire. Sois béni, Seigneur. Adoré, loué. Grandement, Seigneur. Aujourd'hui, et pour l'éternité. Amen.
Merci, Seigneur. La révélation de tes paroles nous éclaire. Merci de nous avoir fait asseoir avec toi dans les lieux célestes.
Au-dessus des dominations.
En Christ, au-dessus de toute domination. Assis avec toi, Seigneur. Quelle grâce. Quel honneur,
oh oui, Seigneur.
Mais aussi quelle responsabilité.
Oh oui, Seigneur.
Merci, auprès de toi, nous serons bien gardés. Ta houlette et ton bâton nous rassurent.
Oh oui, Seigneur.
C'est pourquoi nous voulons rester près de toi, Seigneur. Merci, cette grâce que nous avons de demeurer en toi. Demeurez en moi et je demeurerai dans vous. Comme le sarment est attaché au cep, Nous voulons rester attachés à toi, afin de porter du fruit, un fruit qui demeure.
Amen.
Merci, Seigneur.
Alléluia, Jésus.
Assis avec toi dans les lieux célestes.
Oui, Jésus.
Quel privilège.
Oui, Seigneur.
Quel miracle. Oh,
merci,
béni
Jésus.
Sois-tu éternellement.
Merci.
Quelle protection.
Quelle protection, oui.
Merci, Seigneur.
Puissante protection. Merci.
Bénis ta parole encore. Éclaire-nous encore. Conduis-nous dans tes voies, dans ce que tu veux que nous apprenions de toi. Encore, tu as tant de choses à nous dire, Seigneur. Nous sommes parfois lents à comprendre. Éclaire-nous encore, éclaire-moi. Que ta lumière se fasse dans mon esprit, dans notre esprit. Et que, Seigneur, ta parole pénètre au plus profond de nous-mêmes et nous enseigne tes voies qui sont justes, parfaites, irréprochables. Pourquoi nous pouvons être dans la paix lorsque nous sommes dans cette confiance totale en toi et en ta parole divine, éternelle. Merci, Seigneur. Enseigne-nous, éclaire-nous et conduis-nous sur le chemin étroit qui mène à la gloire éternelle. Amen.
Amen, Seigneur.
Merci, Seigneur. À un moment donné, dans les évangiles, il nous est dit que les disciples virent la gloire de Jésus. C'est dans le passage de la Transfiguration. Et dans cet épisode de la Transfiguration, Luc chapitre 9, on peut le lire dans les trois évangiles. On va déjà lire ici ce passage. Luc chapitre 9, cet épisode de la Transfiguration a été un point capital dans la vie de Jésus. Et pas seulement dans la vie de Jésus, mais aussi dans la vie des disciples. Quand ils virent la gloire de Jésus, il est dit, eh bien, qu'est-ce qu'ils virent? À quoi correspond cette gloire? Nous allons essayer de découvrir comme quatre rayons lumineux de la gloire de Dieu dans ce passage. Lisons Luc 9. À partir du verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, et ces paroles, c'était donc à partir du verset 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Et environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Soulignez déjà le verbe « changer » ici. Pendant qu'il priait, son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, souligné départ ici, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que ce départ? Dans le texte grec, c'est son exode. Il y a eu, naturellement, c'était de sa mort dont il parlait ici. Il est important de voir ici un des rayons de sa gloire. Nous allons le découvrir tout à l'heure là. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Voyez-vous le passage dont il est question ? Ils virent, étant éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus. Et ils en avaient besoin.
C'est ça. Quand on entend, on a besoin de voir sa gloire.
Ils en avaient besoin parce qu'ils se posaient encore beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas encore. Juste un peu avant, dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus a dit qu'il allait à Jérusalem pour être crucifié, rejeté et tout, qu'a dit Pierre ? Mais cela ne t'arrivera pas, c'est pas possible. Et Jésus a dû lui dire : arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et pourtant, Pierre avait dit cela après avoir eu la révélation dans Matthieu que Jésus était le Christ. Il a une telle révélation de Jésus, le Fils de Dieu, qu'on pourrait penser que ça y est, avec ça, c'est bon. Mais voilà, quelques instants après, ce qu'il a dit était extraordinaire. Il fallait une révélation. Mm-hmm. Mais il n'avait pas tout compris. Il n'avait pas tout compris. Et il se posait des questions. Un peu avant, après, si vous lisez ce passage, ils disent même, les scribes disent cela. Élie devait venir, doit venir le premier. Vous voyez, ils se posent toutes sortes de questions. Ils sont encore là, avec des questions, des doutes, des incertitudes. Et la transfiguration, l'expérience ici, est capitale pour eux. Car Pierre en parlera dans son épître de la transfiguration. Il en a été marqué à un tel point qu'il en parle. C'est dans 2 Pierre 1,18. Peut-être qu'on peut lire cela, ça fait partie du message, pour vous montrer combien Pierre avait besoin de cela. Et là, il a appris certaines choses. Les choses se sont clarifiées. Tout n'était pas encore tout clair. C'est à la Pentecôte que la lumière a été totale. Mais là, il y a eu des choses qu'il a compris. 2 Pierre 1,18. Et qu'est-ce qu'on lit ? 2 Pierre 1,18. On peut lire déjà à partir du verset 16. Et verset 14 déjà, quand il dit, car je sais que, et je regarde, 13, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Parce que, il sait pourquoi il dit cela, parce que le Seigneur l'a averti lui-même à plusieurs reprises. Et il se dit que si lui avait besoin d'être averti, les autres en ont aussi besoin. Voyez-vous, ce qu'on vit soi-même, finalement, nous sert pour les autres aussi. Le Seigneur nous avertit, nous, mais pour que nous puissions avertir les autres. Si nous ne nous laissons pas avertir nous-mêmes, nous ne pourrons pas avertir les autres. Il s'est laissé reprendre. C'est ainsi qu'il pouvait reprendre les autres. Et on voit que Pierre, là, sur cette montagne de la transfiguration, il a été frappé, impressionné, marqué. Car je sais que je la quitterai, donc, cette tente, subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Mm-hmm. Il dit ça, cela veut dire que vous ne pouvez plus lui enlever ce qu'il a vu, la gloire de Jésus. Et nous allons voir les 4 rayons de la gloire de Jésus dans le texte de la transfiguration. Car c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui, cette montagne est devenue une montagne sainte parce qu'il y a une rencontre avec Dieu, une révélation de Dieu, une compréhension de Dieu. Quand nous sommes touchés à ce point-là par Dieu, les choses deviennent saintes. C'est-à-dire qu'elles ont pour nous une valeur infinie.
Ah, oui.
Et nous sommes prêts à mourir même pour ce que Dieu nous a montré et révélé. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Nous voyons donc là que Pierre est marqué par ce qu'il a vu sur cette montagne. Et il veut maintenant dire en somme aux chrétiens ce que nous avons entendu. Ce ne sont pas de l'imagination. On ne s'est pas fait des idées.
C'est ça.
Ce n'est pas une lubie. C'était rien de tout ça. On a vu la gloire de Jésus. Et quelle était cette gloire? Revenons dans Luc, chapitre 9, au verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Soulignez bien ce mot. Changer, le mot grec ici, c'est métamorphoser. Métamorphoser. C'est-à-dire que, je l'ai regardé dans le dictionnaire, ce que le mot veut dire, c'est changer d'apparence. C'est changer complètement. Si bien que, quand ils l'ont vu, Jésus a eu une apparence qu'ils n'ont jamais connue. Son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc pas seulement son visage, mais tout son être, d'un seul coup, était lumineux.
Même son vêtement.
Son vêtement.
Jusqu'à son vêtement.
Et d'après le texte, c'est pas une lumière qui est venue d'en haut.
C'était de l'intérieur
que ça rayonnait. C'était comme s'il se dévoilait à ses disciples.
Quelque chose.
Et quelle était cette révélation qu'ils devaient avoir là, devant leurs yeux? C'était la gloire de la divinité de Jésus. Mm-hmm. C'est Jésus homme devant eux. Et plus qu'un homme,
et voilà.
Il est Dieu.
Et voilà.
C'est pourquoi il parle de sa majesté. Nous avons contemplé sa majesté. Donc il parle là de la divinité. Et il y a là un point extrêmement important pour nous et pour Pierre, Jacques et Jean. Ils allaient être les dirigeants de l'Église. Ils trébuchaient encore un petit peu, malgré des révélations extraordinaires. L'influence était là. Que disent les scribes? Les scribes disent ceci. Et Jésus les avertit même concernant les pharisiens, tout dans le contexte. On ne va pas tout lire, ça nous prendrait trop de temps. Mais à un moment donné, il leur dit... Attention, faites attention du haut levain, des pharisiens et des sadducéens. À 2 reprises dans Matthieu, il lui dit, prenez soin du levain
C'est dans Matthieu 17 le passage. Prenez soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils n'ont pas bien compris. Un peu plus loin, toujours dans le même passage, il leur dit, prenez soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors là, ils comprirent que Jésus parlait de l'enseignement de ces pharisiens et de ces sadducéens. De l'enseignement. Et quel était cet enseignement? Nous le savons. Israël attendait quoi? Un roi glorieux. La croix était loin d'être devant leurs yeux. C'est pourquoi Pierre a réagi tout de suite. Mais de grâce, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi a-t-il réagi comme ça? C'était le levain des pharisiens, des sadducéens qui œuvraient en lui. Et Jésus a vu tout cela. Il a dit qu'il ne pouvait pas penser, qu'il ne pouvait pas partir comme cela. Et c'était comme la transfiguration, comme si Jésus se dévoilait à ses disciples. C'était comme un summum là, sur la montagne, une révélation au maximum de sa divinité. Et eux, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Son visage resplendissant, ses habits resplendissants. Et on a un peu cette image-là dans Apocalypse 1. Je lisais tout à l'heure ce passage, Apocalypse chapitre 1, quand Jean a cette révélation de la gloire de Jésus, un autre aspect, mais c'est un peu cela. Apocalypse 1, verset 12, « Je me retournais pour connaître quelle était sa voix, la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. » Fils de l'homme, qui nous parle de sa divinité, là. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil. Regardez, regardez le passage qui correspond tout à fait. Comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. D'ailleurs, dans un des passages, je crois, il est dit que son visage brillait comme le soleil. Il faudra vérifier dans Matthieu ou dans Marc. Comme quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi et me dit, sur la main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues, dans ma main droite et des sept chandeliers. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Nous voyons là le message que Jésus donne par sa divinité. Et les apôtres sont frappés. Ce qui veut dire que maintenant, il n'est plus question de douter. Nous savons maintenant qui il est. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, quoique encore ayant des faiblesses. Pierre encore a eu son reniement, vous vous rendez compte? Après une telle révélation, combien nous devons faire attention? Après de grandes bénédictions, ouais. Nous pouvons laisser la place à notre cœur mauvais et dire et faire des choses qui déshonorent le Seigneur. Pourtant, après avoir vu la gloire de Dieu. Nous devons veiller à tout cela. Son visage changea, se métamorphosa. Il n'avait jamais vu le Seigneur comme cela. Jamais. Non seulement son visage, mais tout son être. Quel spectacle! Il voyait bien qu'il n'était pas un homme comme les autres, qu'il était donc le Messie.
Et c'est ce que les pharisiens et les sadducéens n'acceptaient pas de lui. Et il fallait que dans ce domaine-là, eux-mêmes, les apôtres, soient au clair et qu'ils sachent qu'il est le Messie d'Israël. C'était un point important pour qu'ils ne se laissent plus influencer par l'esprit religieux de ce temps-là qui était opposé à cette divinité. Et nous voyons qu'après la Pentecôte, ils n'étaient plus du tout les mêmes. Après quelques soubresauts, quelques doutes, quelques chutes, ils se sont relevés. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Son visage changea. Son visage changea. C'est devant eux. Dans Matthieu, je crois que c'était devant eux. Qu'il est devant eux. Matthieu 17, je vais juste voir. Vous voyez, c'est dans Matthieu, il est dit qu'il fut transformé, Matthieu 17, les versets premiers, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, voyez-vous ? On retrouve le passage, là. Comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Oui, chacun donne un aspect un peu de la gloire, cette gloire magnifique, cette gloire infinie. Ah oui, devant eux, là. Voilà, au verset 2, 17, Matthieu 17, verset 2, il fut transfiguré devant eux. C'est très important, ça. Devant eux. C'est pas comme ça pour parce qu'ils voulaient se dévoiler, c'est parce qu'ils en avaient besoin. C'était les responsables. C'était eux qui allaient communiquer le message. Il fallait qu'ils soient au clair, c'est devant eux. Il fallait que ça pénètre. Et que toute cette religiosité, tous ces mensonges qu'ils avaient entendus à gauche, à droite, tout cela devait être purifié. Et la gloire de la divinité de Jésus a mis les choses en ordre. Et devint d'une éclatante blancheur. Que nous puissions réaliser que Jésus n'est pas quelqu'un comme un autre. Il est Dieu manifesté en chair. Et aujourd'hui, dans l'Église encore, sa personne est rejetée, sa divinité. On veut bien l'accepter comme homme, mais pas comme prophète. Ou comme prophète, mais pas comme Dieu. La deuxième personne de la Trinité divine. Et quand ils virent cela devant eux, alors ils n'étaient plus les mêmes. Que lorsque Dieu nous parle directement, que nous soyons aussi sensibles. Souvent, Dieu nous parle directement. Il nous faut aussi faire attention.
Écouter.
Et agir en conséquence. Eux, c'était d'une manière spéciale, naturellement. C'était ceux qui allaient prendre le relais. Ils avaient une grande responsabilité. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités. Dieu aussi nous a parlé. Dieu aussi s'est révélé à nous. On doit être aussi marqué par cela et ne pas nous laisser arrêter par l'un ou par l'autre, par des scribes, des pharisiens ou des sadducéens qui veulent mettre le doute. Ah oui, mais ceci et cela. Quand tu sais que Jésus est Dieu manifesté en chair, qu'il est incomparable, il n'y a plus de problème.
Plus de doute possible.
Plus de doute possible. Il n'y a plus rien. C'est lui qui aura le dernier mot. La première gloire, c'est la gloire de sa divinité. Dans ce verbe changer, métamorphoser, nous avons vu sa majesté sur la sainte montagne. Et voici deux hommes s'entretenaient. Donc Luc 9, verset 30, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et ici, les questions, comme je vous l'ai dit dans le texte grec, de son exode. Il est parlé donc de sa mort sur la croix. Le deuxième rayon de la gloire de Jésus, c'est sa croix. La croix expiatoire de Jésus. Sa divinité, mais sa mort sur la croix. Et quand on pense à l'Exode, puisque c'est le mot, ça vous rappelle quelque chose, l'Exode ?
Le peuple d'Israël.
Je lisais justement tout à l'heure dans Exode 12, juste quelques passages. Exode 12, vers la fin, on va lire un peu vers la fin, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Voilà, ils s'en vont maintenant. Au nombre d'environ 600 000 hommes, de pied, sans les enfants, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis, des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de combien ? 430 ans. Et au bout de 430 ans, écoutez bien, regardez là ici, soulignez,
le jour même,
toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte ? Le jour même, après 430 ans.
En un jour.
Donc le jour même, comme vous voyez où la précision de Dieu ? L'agneau de Dieu a été prédestiné dès avant la fondation du monde. Vous voyez, il n'y a rien qui se fait au hasard. Après 430 ans, on pourrait dire on n'est plus à une année près. Il n'est pas question d'une année près ici. C'est le jour près. La précision de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses qui se font selon la préscience de Dieu, selon la sagesse de Dieu, préparées d'avance. Mmh. Il y a un plan extraordinaire. Mmh. Et ils sont sortis après 430 ans d'esclavage. Mmh. 600 000 hommes, sans compter les enfants. Quelle délivrance, l'Exode. Quelle délivrance de la main de cet ennemi qui les tenait captifs. Mmh. Le deuxième rayon de gloire. C'est la gloire de sa croix libératrice. Nous aussi, on en a parlé tout à l'heure, nous avons été libérés non seulement de nos péchés, mais de Pharaon, du Pharaon, de l'ennemi qui nous tenait captifs.
Amen, gloire à Dieu.
Dieu nous en a délivrés.
C'est beau.
Pour toujours. Et c'est ça l'Exode. L'Exode qu'il allait faire à Jérusalem. La délivrance qu'il allait accorder. Et certainement que Pierre, Jacques et Jean, en parlant d'Exode, ils ont compris tout de suite que le rapport avec la délivrance d'Israël, c'était donc une délivrance de la main d'un ennemi, d'un esclavage, que personne pouvait, dont personne pouvait les délivré. Personne. Seul Dieu, manifesté en chair, pouvait venir accorder cette délivrance. Et qui est-ce qui parlait de cet exode ? C'était Moïse et Élie. C'est comme pour dire, Moïse nous a délivrés de la maison du Pharaon. Mais Moïse représente la loi. Et c'est comme si la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu voulait nous dire, eh bien voyez-vous, Moïse c'est la loi, mais la loi, Jésus l'a accomplie à notre place. Et parce qu'il l'a accomplie à notre place, il pourrait nous en délivrer. Amen. Moïse a délivré Israël dans l'Égypte, mais après ils sont retombés dans l'esclavage. Tandis que ce Jésus-là, il est venu accomplir la loi qui nous condamnait. Il l'accomplit pour nous. De telle sorte que si nous croyons en lui, nous sommes délivrés de ce joug de la loi pour toujours.
Alléluia, amen.
Élie, qu'est-ce qu'il fait là? Élie, Moïse c'est la loi, Élie c'est les prophètes.
Tout ce que les prophètes ont annoncé, Ésaïe, Jérémie et tous les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Et c'était comme si Élie disait, eh bien voilà, tout ce qui a été écrit des prophètes, l'accomplissement est là.
C'est lui.
Et Pierre, Jacques et Jean avaient besoin de cela. Parce que l'air ambiant de ce moment-là, c'est que le Messie, il allait venir, non pas pour les délivrer du péché, mais de les délivrer des Romains d'un joug extérieur, mais non pas d'un joug intérieur. Ils étaient complètement à côté de la course. Et quand ils entendent Moïse dire, c'est lui qui accomplira toute la loi. Moi, j'ai apporté la loi, mais je n'ai pas vraiment délivré le peuple. Mais lui, moi, j'ai apporté la loi. Lui a accompli la loi. Parfaitement. Vous pouvez donc vous confier en lui, parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Et ce qu'il fait a une autorité divine.
C'est vrai.
Que tout homme doit accepter, y compris le diable et les puissances des ténèbres.
Amen.
C'est la loi divine. Le diable doit s'incliner.
Amen. Eh oui.
Élie, les prophètes, comme s'il disait, tous ces prophètes qui ont prophétisé, Ésaïe et tout cela, eh bien voilà maintenant, l'accomplissement est là, en Jésus.
Oh oui,
en Jésus.
Seigneur,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Merci.
Le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, apporte ce message extraordinaire. Le rayon de la gloire dans la croix libératrice de Jésus. Amen.
Amen.
Et ça, ils avaient besoin. Parce que tout était confondu. Tout était confus. C'était pas clair. Je dois aller mourir. Non, surtout pas. Surtout pas. Et donc, c'était pas bien clair, malgré les petits rayons qu'ils avaient reçus. Mais la pleine lumière n'était pas faite encore. Un troisième rayon, je vous l'ai dit, où est-ce qu'on le trouve, ce troisième rayon? Au verset 35. Il y a un rayon, un point important là. Toujours 9, 35. Comme il parlait, Moïse, donc, pour Élie, il ne savait pas ce qu'il disait. Donc, verset 34. « Comme il parlait ainsi, une nuée, voilà, soulignez là le mot, vint les couvrir. » Une
nuée.
« Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. » Attention là, il y a un message extraordinaire là. Seulement dans ce mot-là, « nuée ». Et on peut, moi, jusqu'à pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un nuage de pluie, là, tu sais, qui vient et qui les a séparés. Il a plus un nuage, tout simplement. Comment on l'appelle les noms des nuages, là. Il y a les cumulus, des cumulus et tout ça. Mais ça n'a rien de ça. Attention, la nuée ici, je vais vous donner des textes. La nuée symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu, soulignez bien.
C'était pas un nuage. Hein?
C'était pas un nuage qui était là pour apporter je ne sais quoi, la pluie et autres. C'était la présence de Dieu. Troisième rayon de la gloire de Jésus. C'est Jésus qui amène la présence de Dieu. Une fois que le péché est ôté, désormais, Dieu peut venir habiter au milieu de nous. Vous comprenez ça? Jean, pour montrer que Jésus était désormais la présence de Dieu au milieu de nous. Et si nous croyons en lui, nous expérimentons la présence de Dieu avec Jésus.
Amen.
Jean 1, 14, par exemple. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Elle habite et la parole a été faite chair. Et ensuite, elle a
habité.
Ah, habité. Soulignez bien. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le mot habiter ici veut dire tabernaclé, dans le texte grec. Tabernaclé. Et le tabernacle était quoi? Était le symbole de la présence de Dieu. Jésus est venu tabernacler au milieu de nous. Autrement dit, il est venu amener la présence de Dieu. Et cette nuée, je vais vous donner quelques versets, j'en ai. Et Moïse, bien sûr. Et j'ai noté Exode 16, 10. Qu'est-ce que vous avez? Exode 16, 10. Qu'est-ce qui se passe ici? Exode 16, 10. Dans la nuée. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Dans la nuée. Donc on voit là que la nuée est le symbole de la présence de Dieu. Dieu a parlé, c'est le symbole de la présence. Et ensuite, 19.9 aussi, juste un peu plus loin. 19.9, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Voyez-vous, la nuée ici est vraiment le symbole de la présence de Dieu. Il y a encore un autre passage, 1 Roi 8, 10. Un roi 8, 10, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit?
Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint,
voilà,
la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel.
Voilà. Oui. Vous avez vu? Vous avez entendu? Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Cette présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 17, c'est un passage que nous connaissons bien. 1 Thessaloniciens 4, 17, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, 1, 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Enlevés avec eux sur des nuées. Autrement dit, la présence de Dieu va venir
nous enlever.
Sa présence.
Ah oui, c'est magnifique. Mais il y a d'autres passages, on peut encore lire, mais on peut déjà voir que la nuée, ce n'est pas un simple nuage. C'est la présence même de Dieu, la gloire de Dieu.
Puis ce n'est pas seulement valable dans l'Ancienne Alliance.
Et non, c'est aussi
c'est
dans le Nouveau.
Aujourd'hui encore.
Bien sûr, mais naturellement.
Dieu peut se manifester par nuée.
Bien sûr. Et alors, maintenant, pour terminer, et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Là, souligné maintenant. Et ici, il y a le quatrième rayon de la gloire de Jésus. Écoutez-le. C'est quoi? C'est le rayon de la parole de Dieu. De la parole immuable de Dieu. Et Jésus est la parole vivante. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Écoutez-le. Parce que Pierre, Jacques et Jean écoutaient n'importe qui. Ils écoutaient aussi Moïse et Élie. Ouais. Mais maintenant, Moïse et Élie leur disent, attention, c'est plus nous. Il faut écouter. C'est lui, il n'y en a qu'un. Parce que l'erreur de Pierre a été de mettre Jésus et Moïse et Élie sur le même niveau. Il a dit, on va faire 3 tentes.
Ah ouais, en plus.
Et c'est au moment qu'il a dit ça que la nuit est venue. Comme pour dire, stop. Attention, tu ne peux pas mettre Moïse et Élie au même niveau que Jésus.
Là, oui,
et quand ils se réveillèrent, ils ne virent que Jésus seul. Comme pour dire, Moïse et Élie ont fait leur part. Et leur part, c'était de nous orienter vers Jésus. Il ne faut pas rester en arrière, comme tout le peuple d'Israël l'a fait, tout le judaïsme à ce moment-là, finalement. Nous avons pour père Abraham, nous avons pour père Moïse et tout ça. Enfin, ils étaient là, ils se restent en arrière. Alors que là, sur la montagne de la transfiguration, écoutez-le. Ils ont eu leur ministère. Et leur ministère, c'était de pointer vers le Messie d'Israël, qui est Jésus. Écoutez-le. C'est un ordre. C'est fini maintenant. La confusion au milieu de vous vient de ce que vous avez écouté n'importe qui. Maintenant, tout cela a un sens. Tout cela a un but. Tout se concrétise dans une personne, Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez-le. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi ne verra pas la gloire de Dieu, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et quand on rejette Jésus, on rejette Dieu.
C'est ça.
Rejeter la parole de Jésus, c'est rejeter la parole de Dieu.
Donc, Jésus aussi.
Oui, c'est ça. Mais rejeter la parole de Jésus, c'est aussi rejeter la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne crois pas en Jésus, mais je crois en Dieu. Ça ne marche pas. Combien de fois le Père a dit, si vous n'honorez pas le Fils, vous n'honorez pas le Père. Dans l'évangile de Jean, combien de fois? Celui qui honore le Fils, c'est celui qui honore le Père. Tandis que maintenant, on veut nous faire croire que moi, on peut ne pas honorer Jésus, mais honorer quand même Dieu, le Père. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Écoutez-le. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Avec ses quatre rayons de la révélation de la gloire de Dieu, nous voyons que les apôtres ont été marqués profondément et sont devenus des serviteurs fiables. Après quelques petits chaos, quelques petits combats, le juste peut tomber cette fois, mais chaque fois il se relève. Et après la Pentecôte, ils n'étaient plus les mêmes. Le doute était terminé. À un moment donné, le doute prend fin. À un moment donné, les questions disparaissent. Quand on a contemplé sa majesté, il n'y a plus de doute possible. Ce serait un péché à ce moment-là de le croire. Que Dieu nous aide.
Amen.
Les apôtres avaient besoin de cela. Et nous en avons besoin aussi.
Oh oui, Seigneur. Oui.
C'est en tenue éveillée, ils virent la gloire de Jésus.
Merci, Seigneur.
Très peu de personnes ont vu cette gloire et croient en cette gloire. Elle est là cachée, mais elle est là quand même. C'est pas parce qu'elle est cachée aux yeux des hommes qu'elle n'existe pas.
C'est ça.
Et c'est ce que Jésus et le Père, Dieu son Père, voulaient montrer aux trois apôtres. Il faut que vous puissiez voir cela, pour qu'il n'y ait plus jamais de doute. Sa parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Ils virent la gloire de Jésus. Puissions-nous revenir et contempler sa gloire dans ce monde de ténèbres, où toutes ces vérités sont contestées et rejetées. Même dans les milieux chrétiens. Même dans les milieux chrétiens. Où l'apostasie fait une œuvre destructrice, des ravages dans les cœurs. Il est temps que cette révélation de sa gloire nous envahisse, nous saisisse. Et comme Paul, que nous puissions dire, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Que nous aussi, nous soyons saisis à tel point que nous ne soyons plus les mêmes et que nos vies désormais ne cherchent qu'une chose, son approbation. Écoutez-le, tout le reste est du mensonge. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et la parole de Jésus est du mensonge.
C'est tout.
Un point, c'est tout. Soyons donc courageux, persévérons jusqu'au bout. Sois fidèle
jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie.
Amen.
Amen.
Amen, Seigneur.
Merci pour ta parole.
Merci, Seigneur.
Merci pour cette révélation,
Seigneur,
de ta gloire. Seigneur, nous avons tant, et j'en ai tant besoin de voir.
Oui, ouvre nos yeux, Seigneur.
Voir toujours plus cette gloire qui est la tienne.
Amen,
afin qu'on ne se détourne plus jamais de toi, mais qu'au contraire, nous puissions t'annoncer encore avec plus de conviction, d'assurance, de foi, de compassion.
Oui, amen.
Aide-nous, aide-moi, Seigneur.
Seigneur.
Garde-nous à tes pieds jusqu'au bout. Tu as placé la couronne à côté du trône. Et tu veux que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Et c'est près du trône que nous recevrons la couronne. Donne-nous de persévérer jusqu'au bout afin de recevoir cette couronne pour te glorifier dans notre vie et pour que ton nom soit exalté à jamais en nous et par nous. Amen.
Amen, Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole.
Merci.
Car sans elle, nous serions dans la confusion aussi. Garde-nous d'y ajouter quoi que ce soit ou d'en retrancher quoi que ce soit. Seigneur, tu as parlé une fois pour toutes et maintenant, tu nous dis au travers de ta parole qu'il faut écouter cette parole.
Écoutez-le.
Écoutez-le.
Merci.
Tu as parlé, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons écouter, et non les hommes. Seigneur, garde-nous d'être perturbés par toutes sortes de doctrines à la mode aujourd'hui. Toutes sortes de rajouts, de séductions qui se sont infiltrées dans ton peuple. Seigneur, garde-nous. Nous voulons rester attaché près de ta parole et ne rien accepter d'autre. C'est le point final que nous devons mettre, Seigneur. Ta parole et ta parole seulement.
Oui.
Sois béni, Seigneur, pour ta présence aujourd'hui.
Merveille,
tu nous as parlé prophétiquement, Seigneur.
Gloire à ton nom.
Tu nous as mis
Jésus
en garde. Tu nous as encouragés.
Béni sois-tu, Seigneur.
Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Seigneur, nous voulons tenir compte de ce que tu viens de nous dire, afin qu'aucun doute ne puisse s'installer en nous.
Amen.
Et que nous soyons forts jusqu'à la mort.
Amen.
Merci, Seigneur. Sois loué et béni éternellement.
Oui.
Amen.
Amen. Amen.